Je voulais finir en tout cas cette tranche sur la dictature du bruit par des bruits peut-être un peu plus abstraits ou moins agréables, puisque tout le monde a son mot à dire sur le bruit, et notamment toi, Liz, qui nous a rejoint en studio. Toi, on te dit bruit, tu penses acouphène.
Oh, oui, parce que ça fait maintenant... trois ans que je souffre d'acouphènes en permanence. Donc j'ai des médicaments quand j'ai des crises très fortes, c'est très rare, mais ça arrive par exemple après un festival où on dort 4 heures par nuit et qu'on fait de la radio pendant 3 jours. Il est possible que demain ou après-demain je sois obligée de prendre des médicaments qui fluidifient le sang apparemment et qui permettent de me faire moins de pression, d'après ce que j'ai compris sur
Alors pour ceux qui ont la chance de ne jamais avoir eu d'acouphène, ça ressemble à quoi? Ça fait quelle sensation?
Alors en fait,
Mais tout le monde en a déjà eu.
Ouais.
C'est impossible.
On en aurait eu sans le savoir.
Ouais. Peut-être que tu n'y as pas fait attention, mais de toute façon, dans ton oreille, dans le fonctionnement de ton oreille, si tu veux, il y en a toujours qui sont latents, qui sont très bas, mais qu'on n'entend pas parce que normalement, ils sont super bas et que les bruits de la vie de tous les jours sont de toute façon trop élevés pour pouvoir entendre ces sons-là.
J'étais sur le piton de la Fournaise à l'île de la Réunion l'an dernier. Bon, voilà, je l'ai placé. C'est pas ça. Sur le piton, tu marches dans la roche volcanique. Donc, tu as tes bâtons, ça fait du bruit. Pa, 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 et puis, à un moment, tu décides de t'arrêter. Il n'y a plus personne autour de toi. Tu dois prendre un petit mouchoir et tu t'arrêtes. Et ce moment de silence a été perturbé par un acouphène. Je n'en ai jamais. Et tout d'un coup, j'ai eu un acouphène en plein beau silence.
C'est parce qu'il y avait trop de silence.
T'imagines? Et voilà, donc en fait, c'est
trop de silence sur l'oreille.
Nous les avons, mais nous ne les entendons pas parce qu'il y a du bruit peut-être autour de nous. Et que quand tu dégustes un vrai silence, c'est tellement rare finalement. Est-ce que c'était vraiment un vrai silence?
Parce que le silence n'existe pas. Voilà. Même les gens, les expériences qu'on entend beaucoup de personnes qui rentrent dans les chambres anéchoïques, qui sont donc des chambres complètement capitonnées où il y a même une grille, les vraies, celle des puristes, où il y a vraiment zéro réverbération, etc. C'est une sorte de grillage suspendu comme ça, où on marche sur ce grillage qui fait passer le son, et en dessous du grillage il y a des gros triangles de mousse ou autre matière un peu molle qui étouffe,
absorbe
le son. Voilà, et donc dans ces endroits-là, moi j'ai personnellement jamais mis les pieds, mais des histoires que j'ai racontées d'amis qui l'ont fait, en fait c'est très flippant comme situation, parce qu'on commence à entendre tous ces sons intérieurs. Donc voilà. Les acouphènes dont tu viens de parler, mais même on entend le sang qui coule dans les veines, le cœur, les intestins qui font plein de bruit, et voilà, ça crée apparemment une prise de conscience de soi et qui est malsaine, et beaucoup de gens même se sentent...
Pourquoi malsaine?
Non, parce qu'il y a des gens qui tombent dans les pommes et qui...
On n'est pas habitué.
Mais ça doit être comparable comme la pesanteur, quoi. C'est un peu le même genre de sensation.
C'est déstabilisant, mais certaines personnes ne peuvent pas mettre de bouchons d'oreille parce qu'ils entendent leur sang. J'ai déjà entendu ça. Mmh. Ah non, tu mets des bouchons d'oreille pour dictature du bruit, enlever ce bruit. Ah non, j'entends mon sang dans mon cerveau. Ce sang, voilà. Ça doit être... tu sais où on pourrait participer à cette expérience sonore?
En Belgique, il y en a une à Louvain. C'est la dernière qui reste. Il y en avait une à Reyers avant, à la RTBF.
Et ça sert à...
Et ils en ont fait des bureaux.
Et l'utilité, proprement dit, de faire des enregistrements purs?
Non, c'est pas tellement pour les enregistrements, c'est pour des mesures, quoi. Les mesures de bruit d'appareils électroniques ou mécaniques ou quoi, de faible puissance. On a besoin évidemment d'être dans un espace où il n'y a aucun bruit autour pour mesurer le bruit que fait un petit appareil.
Un sèche-cheveux, au hasard?
Moi, non, un sèche-cheveux, c'est déjà assez, ça fait déjà assez de bruit. Mais par exemple, mesurer le volume du tic-tic d'une montre, par exemple. Si tu veux pouvoir mesurer ça, tu as besoin d'un espace avec un silence.
On n'y pense pas assez, hein.
Après, maintenant, c'est utilisé juste pour avoir la base neutre, c'est-à-dire que quand on fait la mesure d'un appareil, d'un bruit, on peut voir sur Internet, quand on tape anéchoïque chamber ou chambre anéchoïque, donc anéchoïque pour pas d'écho, pas de réverbération. Il y a des photos avec des gros avions dedans, etc., où ils font des mesures dessus.
Mais ça m'emmène au festival, ça nous emmène donc dans tout ce bruit, ces acouphènes qui sont développés de plus en plus jeunes par ces musiques trop fortes dans nos oreilles. Il existe des personnes qui veulent développer des festivals pur au niveau sonore, au bien-être de l'oreille, genre comme tu pourras avoir des étoiles ou un label son bon pour les oreilles.
Mais moi je comprends pas pourquoi c'est pas déjà obligatoire sur tous les festivals. Pourquoi c'est toujours trop fort? Pourquoi on est obligé de nous donner des bouchons pour se protéger les oreilles aux entrées des festivals, quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème, que oui, c'est bien d'avoir du son fort, mais si ça brise les oreilles...
C'est un problème de comportement au niveau de notre rapport au concert. Pourquoi ? Bon, alors, il y a des gens qui vont dire oui, on a commencé à créer des enceintes qui vont de plus en plus fort, etc. Bouh, c'est pas bien, etc. Mais en fait, quand tu fais la technique d'un concert ou quelque chose comme ça, tu te rends vite compte que t'as une foule devant toi qui gueule. Simplement, juste plein de gens qui parlent fort et qui vont pas se taire, tu vois, parce qu'ils sont là pour s'amuser, pour discuter tous ensemble, etc. Et donc, si tu veux que tout le monde entende la musique,
t'es
obligé de passer au-dessus des gens qui gueulent déjà. Et donc, c'est pour moi, c'est pas que une histoire de technique ou juste de putain, il faut juste baisser un putain de bouton de volume. Il y a aussi vraiment cette question du comportement des spectateurs face au concert. Et je pense que si on développait plus une attitude d'écoute collective et qu'effectivement, alors ce serait un label à créer ou un festival à créer où on essaye de tous ensemble aller écouter des concerts et se taire pendant les concerts. Et alors là, on pourrait commencer à écouter à faible niveau.
C'est drôle que tu parles de ça, Gérald, justement, parce que c'est une expérience qu'ils ont menée pendant la semaine du son. Donc la semaine du son, c'est un événement qui a lieu dans plein de villes en France, en Belgique et notamment à Bruxelles. La prochaine, c'est en janvier, du 29 janvier au 4 février 2018. Et je pense que Arthur, qui est resté en studio avec nous, toi, t'avais assisté à un concert avec un volume sonore dit normal, soit un label de 90 décibels par concert.
Oui, c'était à La Rotonde, au Botanique, donc c'était en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Et c'était un concert de Fugu Mangu, quelque chose comme ça, un groupe belge, chouette, qu'importe. Et l'expérience était de jouer à 90 décibels. Et donc, il y a eu le concert... Et ensuite, entre le public et le groupe, il y a une discussion pour savoir comment chacun a ressenti le concert. Alors effectivement, ils jouaient moins fort et du coup, en fait, c'est drôle ce que tu...
Les gens se taisaient alors.
Ben oui. Ouais. Et donc, en fait, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on a décidé de mettre plus fort, je ne sais pour quelle raison, et que les gens... Ben,
on peut gueuler, on s'en fout en fait. Oui, c'est ça.
Ouais. Et après, moi j'ai trouvé ça chouette parce que c'était très... bon, ils ont orienté plutôt acoustique leur set, mais je recherche pas forcément le son très fort. Et puis Ismaël Colombani de Sage comme les Sauvages avait une belle réflexion là-dessus sur le fait que plus tu joues fort, plus tu mets une distance entre le groupe, les musiciens et le public. Et donc en fait, alors qu'un côté intime, t'es beaucoup plus proche de...
Voilà,
de
moi le son était fort, plus le public se rapprochait. Et mieux ils entendaient finalement.
Et du coup, à la fin, juste pour finir, le groupe, lui, il s'est trouvé un peu... il n'a pas aimé ça parce que en fait, ils ne pouvaient pas mettre leur retour trop fort pour éviter justement d'atteindre le 90 décibels puisque le retour arrive quand même un peu dans la salle. Donc eux ont plus ou moins aimé l'expérience. Et après, ils ont joué à 100-110 décibels, si je me souviens bien. Et voilà, on s'envoyait plus...
Du lourd,
du steak. Mais donc... je suis déjà sorti d'une salle de concert parce que c'était trop fort mettre des bouchons.
J'ai fait une fois Dour, plus jamais parce que c'était là on parle de dictature du bruit. C'est vraiment la dictature du bruit. Mais tout le temps dans tous les espaces et il y a des moments où je me baladais juste pour aller d'un endroit à un autre avec mes bouchons dans les oreilles non-stop.
Tu n'y arrives plus. J'allais en venir. Enfin, on prend de l'âge. Et avec ça, vous voyez, les festivals, c'est plus donné à tout le monde. Je connais des personnes qui me disent, moi, je ne vais plus en festival parce que je préfère déguster un concert dans une salle où c'est respecté. Et aussi, après... le concert est donné de toute façon autrement. On peut poser la question aux artistes, ils ne jouent pas de la même manière en festival. Et d'ailleurs, il y a certaines programmations, on se dit, ah, ça c'est mieux en festival. Ah non, ça ce serait vraiment mieux dans une salle intime ou dans une salle fermée, voire capitonnée.
Mais c'est pas uniquement une question de festival. C'est pas une question de festival parce que quand tu dis la dictature du bruit, t'es obligé de te balader à Dour avec les bouchons.
Les boules qui
ouais.
Les bouchons.
Les boules qui
pas de marque à l'antenne.
Oh là là.
Et c'est le cas pour les gens qui ont des acouphènes comme moi. Par les transports en commun, c'est
insupportable. Ouais.
Vraiment, le métro, les bus, la rue en général, les avenues. Vivre, je l'ai fait pendant 9 mois, vivre au-dessus d'une avenue, je me suis dit, mais plus jamais quoi.
Parce qui est insupportable?
Insupportable, c'est les sons de voiture. En fait, j'entends les moteurs, par exemple, les moteurs de bus ou quoi. Ça me brisait les tympans, quoi. Littéralement, à la fin, je fuyais mon studio. Que
mais là, alors, c'est de l'hyperacousie, c'est plus des acouphènes.
Ouais.
C'est dû à un problème de sang, de liquide.
Non,
c'est comme avoir une ouïe surdéveloppée, finalement.
Bah ouais, c'est ça.
D'entendre tous les sons, même les plus petits.
Il y a des fréquences qui ressortent.
C'est pas surdéveloppée, oui, mais c'est y a plus aussi... tout qui est trop fort, voilà,
c'est
vite.
Ça, c'est ça.
Il n'y a pas de modulation.
Voilà. Et donc, il n'y a qu'un médicament qui peut soigner
non,
ça.
Non, c'est pas. Il y a plusieurs médicaments, mais ça se soigne pas.
Ça se soigne pas.
C'est
irréversible.
Les acouphènes, tu peux juste t'habituer. Et au début, je me souviens que les premiers mois que j'ai eu ça, c'était le stress total. Genre, je m'étais dit, voilà, ma vie est foutue, je vais plus pouvoir faire de la radio, etc. Mais en fait, ton cerveau s'habitue. Mon cerveau s'est habitué. Il y a juste le soir où vraiment, quand je suis dans un espace calme, etc., que j'entends comme une télé, en fait. C'est comme si j'avais une télé dans la tête.
Une vieille télé. Ouais. Mais
donc,
à tube.
C'est venu, enfin voilà. Donc, ça, c'est venu après un son trop fort.
C'est venu parce que je fais de la radio depuis 6 ans et que je mets le casque comme une malade. Voilà.
Engagez-vous, rejoignez-nous sur la radio, c'est une bonne publicité.
C'est bien la radio.
Oui, 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 mais peut-être on va vous laver les oreilles juste avant. Ouais, on va faire du bien à nos auditeurs, on va te faire du bien à tes acouphènes. Lise, on avait préparé ça, des bruits blancs, des bruits roses, des bruits brun. Alors, on va peut-être les passer à la suite et va falloir reconnaître qui est qui.
Voilà.
Quoi et quoi.
Alors, je commence.
C'est de la synesthésie.
Par exemple. Enfin, oui, après, c'est drôle qu'on ait donné des couleurs, etc. Mais voilà.
Ça, c'est un bruit de rache.
C'est une cascade.
Un bruit de pluie, donc je dirais un bruit bleu. Non, alors il faut choisir entre blanc, brun et rose.
Et gris.
Et gris.
Je suis gris.
Blanc, brun, rose.
C'est pas blanc.
C'est pas blanc.
C'est ah rose. Ça, c'est blanc, brun.
Non,
pas blanc.
Non, c'est pas rose. C'est gris.
Non, c'est rose.
Et non, c'est brun.
Oh.
Pourquoi brun?
Nul.
Alors ça, pourquoi brun? Voilà, il s'arrêtait après 30 secondes. Pourquoi brun? En fait, c'est un son. Bon, je vais vous faire écouter le blanc parce que c'est l'origine de tout.
Ah oui.
En fait, ça, c'est le...
C'est brillant, même.
C'est le bruit ultime. C'est-à-dire que c'est un son. Si on analyse toutes les fréquences qui sont contenues dans ce son, des basses jusqu'aux très aiguës, y a autant de fréquences. Donc, c'est hyper homogène avec quand on l'analyse, c'est hyper homogène au niveau des fréquences. Mais en fait, il y a des problèmes de... Voilà, bon, ça, c'est de la psychoacoustique, c'est des choses un peu compliquées, de masquage dans les oreilles, etc. L'oreille n'entend pas de manière linéaire. Et donc, pour ça, il y a le bruit rose, qui est un bruit qui a été égalisé avec une courbe pour correspondre à la manière dont nous, on perçoit le son, pour créer un son qui est, en fait, au niveau de la sensation, homogène, dans le rapport basse et aiguë.
Parce que le bruit blanc, on entend plutôt les aigus, du coup.
Oui, parce que le bruit blanc, là, on l'entend, hein, c'est saturé dans les aigus, et les graves, je peux le remettre, hein, maintenant qu'on en parle. Ça, c'est...
Ça, c'est le brun.
Ça, c'est le blanc.
Le blanc.
On dirait du sucre c'est plastique.
Oui, c'est ça, c'est très fin, très léger, quoi.
Un emballage de bouquets de fleurs.
Voilà. Et ça, par exemple, c'est le souffle électronique, par exemple. Quand on met un micro très fort sur une table de mix ou qu'il y a quelque chose qui déconne, etc., c'est ce genre de bruit qui ressort.
Et alors, par comparaison, le bruit rose.
Voilà.
Et là, on est à la mer, plus.
Il est plus doux, oui.
Mais exactement. Eh bien, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des sons qui sont présents. Par exemple, là, je peux faire des vagues avec.
Bon,
il y a moyen d'être un peu plus.
Ouais.
Tu vois.
Ouais. C'est le volume. Si
c'est le volume. Juste le volume du son et bon, essayer de créer ce mouvement. Après, avec un filtre, je pourrais essayer de faire un peu comme ça et voilà. Le bruit brun, donc, c'est un bruit où on a encore plus de basses qui. En fait, le bruit brun, à ce que j'ai bien compris, c'est un bruit qui descend de 6 dB, donc c'est à chaque fois un filtre en fait, qu'on met sur du bruit blanc pour créer tous ces bruits-là. Et donc on met un filtre sur ces bruits pour mettre plus d'aigus, etc. Et là, c'est comme quelque chose qui va. La fréquence va baisser au plus c'est aigu. Et donc c'est pour ça que c'est plus grave. Donc là, on sent les basses plus. Et puis pour terminer, je vous mets le bruit gris, juste comme ça, parce qu'on doit avancer dans l'émission. Et donc là, c'est du bruit avec des extrêmes graves, des extrêmes aigus et pas beaucoup de médium.
Oui, il est désagréable.
Voilà. Et donc tous ces sons sont aussi utilisés pour faire des prises de mesure, etc., tester des enceintes.
C'est plus le sable, le gris qui passe à travers.
Ouais.
On a la cascade, la mer, la friteuse, le sable, voilà, c'est finalement, oui, plus des moyens mémotechniques un peu mieux que bruit que rose, gris, brun et autres blancs.
Ça, c'est les techniciens, les ingénieurs, les scientifiques qui fument des gros pétards, quoi.
Voilà, voilà.